Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, c'est avec Marc Ferracci. Bonjour, vous êtes le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Vous avez porté la dernière réforme de l'assurance chômage. Vous êtes un fin connaisseur de toutes ces questions de travail. Le ministère du Travail a acté hier l'échec des partenaires sociaux. Il reprend la main sur l'assurance chômage. On aura une nouvelle réforme, on en dira quelques mots dans un instant. Mais avant, est-ce que le paritarisme est encore mort une nouvelle fois hier?
Non, je ne pense pas. Il y a eu une négociation interprofessionnelle sur beaucoup d'enjeux, pas que sur l'assurance chômage, sur l'emploi des seniors, sur le compte épargne temps universel, qui n'a pas abouti. Bon, ça arrive. Et dans cette situation, s'agissant de l'assurance chômage, la loi prévoit de manière extrêmement claire que c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de définir de nouvelles règles. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui va probablement se passer dans les prochaines semaines. Et moi, je le regrette parce que je pense que sur cette négociation, il y avait des enjeux extrêmement importants qui méritaient de la négociation. Le compte épargne temps universel, savoir comment on le met en place, avec quelles conditions, en distinguant la taille des entreprises, par exemple, les enjeux de retraite progressive, les enjeux de reconversion. Je regrette que tout cela n'ait pas abouti. Ça ne signifie pas la fin de l'histoire. Moi, en tant que parlementaire, je vais continuer à travailler avec mes collègues et je vais discuter également avec les partenaires sociaux dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour savoir ce qu'étaient les objectifs de cette négociation et peut-être qu'on reprendra un certain nombre de ces objectifs dans un texte de loi futur.
Alors, on va prendre tous ces sujets les uns après les autres parce que c'est évidemment très important pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. L'assurance chômage, déjà, il y a plusieurs pistes sur la table pour la nouvelle mouture. Est-ce qu'on baisse le montant d'indemnisation? Est-ce qu'on baisse la durée d'indemnisation? Ou est-ce qu'on augmente l'exigence de nombre de mois cotisés pour avoir le droit au chômage?
Alors, moi, je ne vais pas parler à la place du gouvernement. Il prendra ses décisions. Ce que je recommande, c'est de ne pas toucher au montant de l'indemnisation. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on a un montant d'indemnisation qui est à peu près similaire à celui des autres pays, 60-70% de son dernier salaire en moyenne, ce qu'on appelle le taux de remplacement. Et ce montant a, par ailleurs, fait l'objet d'une réforme déjà en 2021. S'agissant de la durée d'indemnisation, là aussi, ça n'a pas ma préférence. Pourquoi ? Parce que la durée d'indemnisation, vous le savez, on a fait une réforme de cette durée en 2023. Mmh. On a diminué la durée parce que la situation du marché du travail s'améliorait.
C'est-à-dire qu'on s'est modulé selon la conjoncture.
Exactement. Ce qu'on a appelé la contracyclicité, on a diminué de 25%, on est passé de 24 à 18 mois sur la durée maximale, 36 à 27 pour les seniors. Pourquoi ? Parce que la situation du marché du travail était dans une dynamique positive. Aujourd'hui, la situation s'est stabilisée, le chômage ne diminue plus, et donc je pense que ça n'est pas forcément le meilleur levier. Vous l'avez dit, le troisième levier, c'est ce qu'on appelle l'éligibilité, c'est-à-dire combien de mois vous avez besoin de travailler pour vous ouvrir un droit à l'assurance chômage.
Aujourd'hui, c'est 6 mois sur 2 ans.
6 mois sur les 24 derniers, effectivement. Et on est assez singulier en France sur ce critère. En Allemagne, c'est 12 mois et pas 6. Moi, je pense que c'est un meilleur levier pour deux raisons. D'abord, parce que c'est plus efficace au sens où ça produit des effets plus rapidement. Concrètement, si vous mettez la réforme en œuvre dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien, dès le début, vous allez avoir des gens qui vont devoir travailler un petit peu plus pour s'ouvrir le droit à l'assurance chômage. Et donc, vous allez voir des résultats en termes d'emploi très rapidement. Alors que si vous bougez la durée d'indemnisation, eh bien, vous devez attendre que les gens atteignent la fin de leur durée d'indemnisation pour voir des effets en termes d'emploi.
Mais j'insiste beaucoup. Mais vous supposez que les gens arrêtent de travailler parce qu'ils ont envie d'arrêter de travailler et non pas qu'ils arrêtent de travailler parce qu'ils n'ont plus de travail.
Oui, mais vous savez, il y a une évaluation qui a été faite de la réforme de 2021 qui a déjà touché cette condition d'éligibilité. On est passé de 4 à 6 mois. Mmh. Une évaluation qui a été faite par des chercheurs indépendants, qui a été publiée par le ministère du Travail. Cette évaluation montre que les contrats se sont effectivement rallongés, que les gens, eh bien, en moyenne, c'est évidemment tout ça est vrai en moyenne, eh bien, ont continué de travailler pour ouvrir le droit à l'assurance chômage. Donc je pense qu'on aura des effets. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est le bon levier, c'est que ça me semble plus juste. Pourquoi ? Parce qu'on touche des gens en augmentant la condition d'éligibilité, qui sont par nature employables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en emploi ou ils l'ont été dans une période assez récente, dans les 2 dernières années. Et là, c'est un élément important parce qu'il faut prendre garde à ce que les réformes touchent des gens qui ont une capacité à retrouver un emploi relativement vite. Donc, à la fois pour une raison d'efficacité et pour une raison de justice, je pense que c'est le meilleur levier.
Et il semble que vous arriviez à convaincre le Premier ministre, puisque c'est désormais la piste qui semble tenir le plus la corde. Sur le CETU, le compte épargne temps universel, il n'y a pas eu d'accord entre les partenaires sociaux. L'UDP est revenu finalement à la charge, essayant de convaincre les autres organisations patronales, sans succès. On a encore entendu des responsables ce matin. L'idée de garder son compte épargne-temps d'une entreprise à une autre, vous en pensez quoi? Et surtout, comment ça fonctionnerait dans votre idée? Qui paye les congés des salariés.
Alors, déjà, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu d'accord sur le CETU. Pourquoi ? Parce que c'est un engagement de campagne du président de la République, c'est un engagement de la majorité présidentielle, c'est un droit nouveau. Il faut savoir que des comptes épargne-temps, pas des comptes épargne-temps universels, mais des comptes épargne-temps, il en existe aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, mais seulement 10 à 15% des salariés sont couverts. Et donc, la première démarche, c'est d'universaliser, un peu comme on a universalisé le compte personnel de formation.
Vous ne prenez pas votre congé, vous le mettez sur un
compte. Vous ne prenez pas votre cinquième semaine de congé payé, vous ne prenez pas vos RTT, et vous les mettez sur un compte qui vous permet de prendre des congés plus tard dans votre vie professionnelle.
Ou de récupérer de l'argent.
Et ça, c'est un élément très important. Être capable de monétiser et de faire ce choix. Parfois, vous avez besoin de trouver du temps pour vous, pour votre famille. Vous avez votre mère qui a eu un accident, vous voulez passer 3 semaines auprès d'elle. Eh bien, vous devez pouvoir avoir cette souplesse, mais vous devez aussi
Donc là, vous changez de boîte, vous le gardez. C'est l'idée.
Effectivement, la grande rupture avec ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la portabilité, c'est-à-dire la possibilité de conserver des jours de congé en passant d'une entreprise à l'autre ou d'un employeur à l'autre. Parce que vous savez que dans la fonction publique, il y a déjà des comptes épargne-temps universels.
Oui, mais Marc Ferracci, le frein pour les employeurs, c'est de se dire, moi je vais récupérer un salarié qui a emmagasiné 6 mois sur son compte épargne-temps, il va les prendre dans mon entreprise, et c'est moi qui vais devoir payer.
Mais c'est justement... Non, d'abord, c'est pas vous qui allez devoir payer, c'est une tierce instance auprès de laquelle, eh bien, on... met ces jours de congé dans lesquels on épargne et qui ensuite vous verse la rémunération à laquelle vous avez droit.
Typiquement la Caisse des dépôts.
Par exemple.
Oui, mais attendez, parce que moi j'ai mis 30 jours ou 6 mois dans mon compte épargne-temps, mais il y a 10 ans, à un salaire qui n'est pas le même qu'aujourd'hui.
Bah,
si je prends mes 3 mois, je les aurai à mon salaire d'aujourd'hui.
Bah, ça, c'est à déterminer, mais ça, c'est des choses qu'on sait assez bien régler.
Bon, c'est assez le compliqué.
Ça
coûte assez
d'argent.
Vous savez,
faire évoluer le montant d'une épargne qui a été mise sur un compte en 2010 pour lui donner une valeur en 2020 ou 2025,
tous les gens
savent faire ça.
Mais pas avec les évolutions salariales.
Non. Tous les gens savent faire ça. Ce que je veux vous dire, c'est que tous ces paramètres, la manière dont on valorise un euro épargné en 2010, en 2020 ou en 2025, la manière dont on ouvre tel type de congé plutôt que tel autre, on peut considérer que le CETU permet d'accéder plus facilement à des congés que les gens prennent de manière un peu urgente, obligatoire, que des congés qu'ils prennent pour des convenances personnelles. La manière dont l'employeur donne son autorisation, tout ça, ça peut être discuté et ça aurait dû être discuté
dans
cette négociation.
Est-ce que ça sera dans l'accord, les nouvelles règles de l'assurance chômage ou est-ce que ça sera dans cette fameuse loi travail 2?
Non, les règles de l'assurance chômage vont être déterminées par décret.
Okay. Donc
ça ne sera pas une loi, c'est le gouvernement qui va prendre ses décisions. En revanche, effectivement, il a déjà été annoncé qu'il y aurait un projet de loi travail sur le travail qui reprendra probablement un certain nombre d'éléments de la négociation sur le CETU, mais aussi sur l'emploi des seniors, sur les reconversions professionnelles à l'automne. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Nous allons rediscuter du CETU avec les partenaires sociaux. Nous allons
mais il pourrait, et c'est très important pour les gens qui nous écoutent, Marc Ferracci, il pourrait ne plus être indexé sur l'augmentation de votre salaire, le CETU.
Ça, c'est à discuter. Et encore une fois, c'est au gouvernement de proposer une mise de
Mais c'était l'origine, quand même. Mm-hmm. C'est important.
Non, mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que dans le cadre d'un CET, vous savez, ça n'est pas fondamentalement différent. Vous pouvez rester 10 ou 20 ans dans une entreprise et épargner des congés que vous faites valoir au bout d'un certain nombre d'années. Donc, le processus qui mène à valoriser l'argent que vous avez.
Si vous monétisez, ça n'a rien à voir.
Mais
en termes de temps, du temps et du temps.
Mais
l'argent, c'est pas la même chose.
Le temps, encore une fois, comme on dit, le temps, c'est de l'argent.
Ben oui, justement.
Le temps peut être évidemment monétisé. C'est ce que permet aujourd'hui le compte épargne-temps. Et on a vocation à faire exactement la même chose avec le compte épargne-temps universel.
En tout cas, les nouvelles règles de l'assurance chômage au 1er juillet.
Alors ça, je ne sais pas. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a évoqué ce point-là.
Bon.
Moi, j'attire l'attention sur le fait que changer les règles d'un point de vue juridique, c'est une chose. Les changer d'un point de vue pratique, ça implique quand même un certain nombre de changements dans les systèmes d'information de France Travail, ex-Pôle Emploi. Et ça, il faut se dire que ça prend un peu de temps.
Merci Marc Ferracci, vice-président du groupe Renaissance, d'avoir été notre invité.